Merci déjà pour vos prises de parole à tous les deux. Et il y a une question dans le chat de Sophie qui demande si vous pouviez développer sur la restitution et les retours qu'il y a eu par rapport vis-à-vis des entretiens.
Alors ouais, merci pour cette question, comme ça, ça me permet de développer ce que je n'ai pas pris le temps de développer juste avant. N'hésitez pas à mettre les autres questions sur le fil, comme ça, vous pouvez organiser la reprise. Alors, les restitutions, en fait, j'ai commencé à faire des moments de discussion que j'ai appelés discussion autour des premiers résultats à partir du moment où j'avais fait la majorité des entretiens individuels et des entretiens collectifs sur les quatre territoires, avec l'idée de pouvoir faire rayonner et discuter les questions que je me posais, et je leur ai posé comme ça, hein. Est-ce que ça, c'est spécifique à votre avis à ce territoire, ou est-ce que vous rencontrez des situations similaires sur le vôtre? Et ainsi de suite. Donc, du coup, il y a eu plein de moments différents. Il y a eu autour, dans un foyer des jeunes, par exemple, on a organisé un moment de discussion, mais ça a aussi été dans un établissement, établissement où, du coup, il y avait un internat, et du coup, il y a des jeunes qui étaient partantes pour participer à l'enquête sur leurs heures d'internat. Et quand je suis revenue, j'ai dit, moi, je veux bien servir pour présenter ce que c'est que la sociologie aux classes de seconde, et puis en présentant ce que c'est que la sociologie, profiter pour dire voilà ce que c'est une sociologie de terrain, et voilà ce qu'on peut dire à un moment, et comment vous y retrouvez ou pas. Je l'ai fait aussi avec une classe de troisième, je me rappelle, dans les Ardennes, et les garçons étaient très surpris des résultats des filles, et en disant c'est pas vraiment comme ça, et les filles de la classe se sont complètement remontées contre les garçons, et ça a été hyper intéressant. Ça a duré 3h30 à la place de 2, les profs étaient complètement dépassés, et moi aussi, par les discussions qu'il y a eu entre les filles et les garçons sur leurs conditions de vie et sur leur manière de lire la vie quotidienne. Donc ces formes de restitution, en fait, elles étaient à la fois pour moi, mais aussi un temps riche d'enseignement dans ce que ça pouvait produire entre les gens. Donc c'était aussi quelque part, c'était encore du terrain, et c'est pour ça que Benoît le dit comme ça, hein. C'était aussi dans l'enquête, parce que c'est aussi des moments où on regarde comment ça prend et voilà. Quand ça a été, alors notamment on a fait une pièce de théâtre, entre guillemets, avec une metteur en scène en Bretagne, à l'initiative du centre social et de la metteur en scène qui a eu vent de l'enquête via la presse et la radio locale, et qui s'est dit « Oh, il y a un coup à jouer !» Donc on s'est appelé, et en fait j'ai passé des extraits d'entretien à la metteur en scène qui a fait un groupe amatrice de jeunes femmes, et il y avait un jeune garçon qui voulait absolument participer à la représentation. Et donc on a fait une présentation alternée de récits d'entretien qui n'étaient pas faits en Bretagne. J'ai pris des entretiens des trois autres territoires. Et puis, on a fait du 1-2 comme ça, en faisant de l'exprès. Enfin, elle avait mis en scène scéniquement les extraits d'entretien que moi, j'ai découvert en même temps que le public la première fois, et qu'on a fait en représentation au cinéma, et puis après à la médiathèque, dans deux bourgs de l'Interco, qui sont assez éloignés géographiquement les deux, avec l'idée de pouvoir avoir aussi un temps de discussion ensuite, à la fois avec le petit groupe d'amatrices qui ont mis en scène et qui ont préparé tout ça, et puis aussi avec les gens qui sont venus voir la représentation. Et donc, ça, c'était à la quasi-fin de l'enquête. Et puis, avant, quand c'est devenu un bouquin, je suis retournée sur certains territoires pour continuer de discuter. Sur là, par contre, j'avais écrit le rapport de recherche, donc les choses étaient plus solide, en tout cas plus stable en termes d'écriture. Et donc, je suis revenue présenter les résultats en disant « voilà ce que ça va donner ». Et là, j'ai l'opportunité d'en faire un livre. Donc, voilà ce que ça va devenir. Et dans le livre, il n'y aura pas tout ce qu'il y a dans le rapport de recherche, puisque je ne peux pas, c'est trop long en fait. Et déjà, dans le rapport de recherche, il n'y a pas tout ce qu'il y a, tout ce que vous avez raconté. Il y a plein de thèmes que je n'ai pas abordé. Donc, voilà. Et donc, cette restitution, elle continue. Hein. En septembre dernier, j'étais en Chartreuse avec une interprétation des entretiens de jeunes femmes faites par des femmes de 80 ans, des villages où j'ai enquêté, où on a enquêté et tout ça, et où ça a été assez chouette aussi de voir comment elles interprétaient ces discours-là à leur hauteur de 70-80. Alors, au-delà du langage et des mots-clés qu'on va avoir aujourd'hui, il y avait aussi qu'est-ce qui résonne avec leur connaissance, elles, du village, et comment elles se retrouvent dans ces propos-là. Donc, voilà un petit peu.
Merci. Donc, il y a d'autres questions dans le chat. Donc, il y a une question de Estelle Plaisancenet, qui donc dit qu'elle est enseignante en milieu rural et qu'elle enseigne en Chartreuse, qu'elle enseigne actuellement dans le milieu rural breton, et qu'elle est intéressée donc par le regard des filles sur leur scolarisation, et qu'elle a remarqué que souvent les filles réussissent mieux que les garçons au collège, et que pourtant à la lecture de l'ouvrage, il y a des parcours d'insertion professionnelle qui apparaissent plus compliqués que ceux des garçons, et quel discours serait porté, quel discours elle porte sur l'école vis-à-vis de ça.
La question de la scolarisation des filles, bon là on n'a pas le temps, voilà. Les filles réussissent mieux à l'école, c'est elles qui vont partir d'ailleurs plus que les garçons, mais moi comme je me suis intéressée, pour faire écho au titre de Benoît de son bouquin, à celles qui restent, ben, je me suis intéressée finalement à celles qui ne vont pas continuer les études forcément très loin, ou enfin très loin en termes d'années de diplôme, et ou qui vont aller vers l'orientation scolaire de proximité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que leur parcours d'insertion professionnelle il est plus compliqué que celui des garçons. D'une part, parce qu'il y a moins de secteurs d'embauche et que les secteurs d'embauche sont plus restreints pour les filles. Et ils sont plus restreints avec du temps partiel fractionné et subi, beaucoup plus fort pour les filles que pour les garçons. À chaque fois, on est, de manière statistique, quand on prend les stats INSEE, hein, on est à chaque fois sur du temps partiel contraint, qui est à hauteur de plus de 25% pour les filles contre moins de 7% pour les garçons de 15-24 ans. Hein. Donc voilà, on est vraiment sur des rapports qui sont très, très inégalitaires. Et voilà, alors ça va être lié aux emplois disponibles, ça va être lié aux qualifications, mais ça va être aussi lié au regard qualification-emploi disponible, c'est-à-dire que les emplois disponibles sur les territoires sont sous-qualifiés au regard des formations que les filles vont avoir. Et donc, elles vont avoir toujours comme exemple le coût de la fille qui a fait une formation un peu plus poussée et qui finalement va être aide-soignante parce qu'elle connaissait quelqu'un et pas... prendre le poste d'aide-soignante ou quasi, parce qu'elle connaissait quelqu'un et pas parce qu'elle était qualifiée, et où elle était qualifiée, et pour autant, elle est devenue vendeuse à Weldom. Et donc, être vendeuse à Weldom, est-ce que ça demandait autant d'années de qualification? Et donc, on va voir qu'il y a une concurrence entre, à la fois d'un côté, l'école qui est importante et qui est importante du point de vue des familles et des filles, et puis l'insertion professionnelle qui se joue aussi par l'entre-soi et par la connaissance des uns et des autres, et des unes et des autres. Donc, voilà. Mais c'est compliqué de répondre en si court sur l'école. Ce qu'on voit également, c'est que sur l'orientation scolaire, il y a une tension sur ce qu'elle voudrait faire et ce qui est possible en termes d'orientation et ce qui est possible dans les offres d'orientation. Et l'offre d'orientation, notamment professionnelle, elle est calée en fonction de l'emploi disponible localement. Et donc après, on va leur reprocher de ne pas être mobile et de ne pas aller voir ailleurs. Pour autant, les offres d'emploi disponibles, les offres de formation étant calées sur les offres d'emploi, ça devient plus compliqué d'aller voir ailleurs. Donc voilà. Et puis après, il y a celles qui reprochent de s'être fait avoir parce qu'elles ont fait une formation en école de commerce, tout ça pour apprendre à être vendeuse à Intersport. Et donc, moi, je pensais que je faisais une école de commerce, machin, et ce n'était pas ça. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin de passer un diplôme pour aller à Intersport? Or, on sait qu'en situation de concurrence très forte entre les jeunes, le fait d'être diplômé protège de toute façon mieux du chômage et favorise de toute façon mieux l'insertion que le fait d'avoir une totale absence de diplôme. Donc voilà. Elles sont aussi dans des familles où l'importance d'entrer dans l'emploi est forte, puisqu'il y a peu de capitaux économiques disponibles pour pouvoir financer la suite.
Encore merci pour la réponse. Il y a une autre question de Élise Martin qui demande si dans le chat, donc si vous observez des modifications de trajectoire des filles qui habitent dans les espaces ruraux marqués par la présence de néo-ruraux, donc avec en particulier la presqu'île de Crozon et le massif de la Chartreuse, et des filles qui donc notamment vont sortir des cercles amicaux habituels et rentrer dans des cercles de ces nouveaux arrivants. Et est-ce que certaines filles deviennent alors des médiatrices entre autochtones et néo-ruraux?
Alors moi, j'ai donc effectivement en Chartreuse et à Crozon, il y a ce côté, les ruraux d'un côté, les néo-ruraux de l'autre, enfin, ils ne s'appellent pas comme ça, mais voilà, c'est le coup du bar des gens qui font du théâtre et qui sont pieds nus, là. Voilà, parce que c'était très important pour elles, les gens qui vivent pieds nus, elles trouvaient ça quand même très, très bizarre. Voilà, et qui, même si ce bar n'est pas fermé à elles, elles ne se sentent pas du tout légitimes, alors elles vont observer. Elles vont parfois traîner, passer devant plusieurs fois pour regarder quand même, c'est un peu chelou ce qu'ils font. C'est des babos qui fument des joints. Bon, elles fument des joints, mais elles ne se qualifient pas dans les babos. Enfin, il y a tout ce truc-là qui va être... Voilà. Mais moi, je n'ai pas rencontré de filles qui fréquentent les deux espaces, en fait. Mais notamment parce qu'il y a des enjeux de capitaux sociaux et de capitaux culturels entre les deux, et elles ont l'impression d'être méprisées largement par les néo-ruraux qui ne viennent pas aux fêtes de village ou qui viennent pour se moquer des autres, qui ne viennent pas au loto, qui ne viennent pas en fait dans l'espace de sociabilité dite traditionnelle dans lesquels vont leurs familles et sur lesquels elles ne voient jamais les autres. Et après, ils jugent. Et donc, voilà. Et le « ils jugent », ben, elles en font tout autant dans l'autre sens. Mais voilà. Alors après, elles vont se retrouver scolarisées dans les mêmes établissements, hein, les filles des néo-ruraux et les filles des ruraux, mais elles vont se reconnaître entre elles. Et ce qu'elles vont décrire, notamment les filles qui sont les plus âgées, qui ont fait des BTS en ville, elles vont dire, mais même en BTS, on se reconnaît entre nous, et comme par hasard, on devient copine avec les autres filles qui viennent du village ou qui viennent de pas loin. On ne se connaissait pas forcément entre filles de village, mais en fait, on va se reconnaître entre nous sans avoir besoin d'en parler, parce que bizarrement, quand on en discute, on se rend compte qu'on vient toutes de village, contrairement aux autres. Donc, voilà.
Merci. Et du coup, on a une dernière question. Est-ce que vous pensez que vous poursuivrez votre enquête sur d'autres terrains, d'autres coins?
Alors, potentiellement, oui. Je pense que là, je fais une autre enquête en ce moment sur d'autres jeunesses, enfin, voilà, d'autres jeunes qui sont des jeunes incarcérés. Hein. Je retourne à la suite d'une enquête qu'on avait faite avec Benoît et Arthur Viotto. Voilà. Et puis après, je pense que ouais, j'irai enquêter sur d'autres coins, et notamment pour relier les enjeux sur lesquels je travaillais avant, sur la sexualité, enfin, pas avant, mais sur la sexualité et sur les filles en milieu rural. Donc voilà, et notamment sur les enjeux autour de la contraception. Parce que je pense qu'il y a vraiment il y a plein de travaux à faire sur la situation des femmes en milieu rural, et notamment sur les enjeux autour de la contraception et de la santé sexuelle.
Du coup, il y a une dernière question donc, de Nour sur... donc là, c'est plutôt en rapport avec... Enfin, avec la situation que vous avez présentée en étude de cas avec Mickaël, qui avait l'air isolé dans les espaces de sociabilité traditionnelle, et donc il demandait ce qu'il en était des personnes maghrébines.
Alors la question des personnes maghrébines, en fait, je l'ai retrouvée de manière très inégale selon les territoires, mais qui sont liées à l'industrialisation et au recrutement qui ont eu lieu dans les vagues de recrutement et de politique d'emploi en France, notamment dans les Ardennes, où on a largement organisé la venue de travailleurs et de travailleuses, mais largement de travailleurs issus de l'immigration, pour embaucher dans les usines, pour travailler dans les usines. Et donc les filles de milieu rural que j'ai rencontrées, majoritairement issues d'Algérie, du Maroc et un peu de la Tunisie, mais majoritairement d'Algérie, c'était dans les Ardennes. Après, de manière plus sporadique, dans les Deux-Sèvres, et plus rarement et aussi un peu en Chartreuse, et plus rarement en Presqu'île de Crozon, par exemple. Alors elles sont isolées en Presqu'île, elles le sont beaucoup moins dans les Ardennes, par exemple. Elles sont nombreuses, elles font corps et elles vont discuter, hein, je ne pouvais pas tout raconter là et non plus dans tout le bouquin, mais elles vont discuter de la question du racisme, elles vont discuter de la question d'être arabe sur des territoires qui ne le sont pas, ou en tout cas pour lesquels elles ne se sentent pas, voilà. Et en même temps elles se disent des filles du coin, et elles vont participer en fait à déconstruire ce truc de les filles du coin, il faut forcément être blanche, et c'est là où elles vont montrer l'importance de la notoriété des familles, le fait d'être connue sur le secteur, le fait de connaître des gens, le fait d'être dans les bons groupes de sociabilité versus les mauvais groupes de sociabilité. Et donc c'est là aussi où elles vont reprendre finalement les mêmes indicateurs que les filles des trois autres territoires. Donc voilà, c'est pareil sur d'autres territoires, mais même y compris dans les Ardennes, il y a des jeunes filles et des jeunes femmes qui sont issues d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale, mais qui sont liées aussi aux vagues d'emploi de leurs parents, en fait, et du coup aux emplois disponibles localement et aux manières dont on a eu d'organiser le travail économique et le travail des ouvriers et des employés en France.
Je pense que c'est bon pour les questions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu, et merci pour vos interventions à tous les deux.